Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Entre la Tour Eiffel et la place du Trocadéro, la cité de l'architecture présente dans son musée près de 1000 ans d'histoire. Aujourd'hui, je suis très heureuse de rencontrer Jean-Marc Hoffmann, qui est commissaire associé de l'exposition Viollet-le-Duc, les visions d'un architecte. En effet, à l'occasion du 200e anniversaire d'Eugène Viollet-le-Duc, une exposition présente l'œuvre de ce grand architecte dont le génie a marqué l'histoire de l'art et de l'architecture du Moyen-Âge. Jean-Marc Hoffmann, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors j'aimerais savoir quelles ont été vos grandes préoccupations en établissant cette exposition que je trouve absolument fabuleuse. Fabuleuse parce qu'on part d'un homme qui n'a pas si bonne réputation que cela en fait en France et parmi les gens cultivés de l'histoire, et on arrive à quelque chose d'absolument sublime. Je dois dire que j'ai été ébahie, émerveillée par cette exposition. Alors dites-nous comment vous avez travaillé pour avoir ce résultat que je trouve absolument superbe.
En fait, c'est un vrai travail d'équipe, un vrai travail de recherche.
Oui.
Et nous avons eu la chance notamment de pouvoir travailler avec sans doute l'un des meilleurs spécialistes du sujet, de l'homme, de ce Viollet-le-Duc, qui est Jean-Michel Legnaud, qui a rédigé en fait de nombreux ouvrages et articles sur cet architecte, et en étroite aussi association avec la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui possède précisément l'essentiel des fonds, en tout cas parmi les plus importants fonds de dessins provenant donc de l'œuvre en tous les cas d'Eugène Viollet-le-Duc.
Alors, je disais, on connaît mieux le personnage, mais aussi ce qui est important, c'est que c'est un des grands fondateurs, peut-être même de ce musée, si je puis dire.
Tout à fait. En fait, nous avions une parfaite légitimité, finalement, à organiser cette importante rétrospective au sein de la Cité de l'architecture et du patrimoine, Musée des Monuments français, puisque le Musée des Monuments français est l'héritier du Musée de sculpture comparée que Viollet-le-Duc a défendu pendant près de 30 ans et qui sera réalisé au soir de sa vie en 1879. C'est ce fameux Musée de sculpture comparée.
Alors ça, je trouve que c'est très important de le dire. Alors maintenant, venons-en à Viollet-le-Duc. Comment était-il ? Faites-nous un portrait de cet homme qui n'a pas vécu longtemps et pourtant qui a fait tellement de choses.
Effectivement, c'est un homme qui est né en 1814, qui décède donc en 1879. C'est un homme en fait du 19e siècle, né pendant la Restauration et décédé finalement sous la Troisième République. Un portrait, c'est difficile, c'est un homme qui a de multiples visages.
Oui, c'est parce que c'est un dandy aussi.
Mais aussi, effectivement, dans l'exposition, nous présentons en fait un très beau portrait. Il doit être âgé d'à peine 30 ans.
Oui.
Et on l'imagine totalement, d'un dandy extrêmement raffiné, un homme également qui présente déjà une forte détermination, en tous les cas qui se manifeste au travers de son visage. Cette première salle notamment où se trouve cette photographie accueille d'autres portraits réalisés de son vivant, même des autoportraits. On le voit par exemple en train d'évoquer l'emplacement des différents tombeaux, par exemple au sein de la basilique Saint-Denis, et également des portraits réalisés donc par de ses contemporains après son décès, comme un très joli buste en fait d'Antoine Zeger, qui permettent de montrer finalement un homme sous tous ses traits. En fait, une diversité physique, un peu moins l'image du fameux tableau de Nadar, les fameux portraits de Nadar. On a voulu multiplier finalement ces regards physiques portés
sur la voit chose. Aussi le portrait de son épouse.
Oui, tout à fait, qu'il appelle en fait la mouche.
Oui.
C'est un homme en fait d'un grand sérieux, mais qui en même temps nourrit une grande fantaisie. Je pense que c'est aussi l'un des attraits de l'exposition, c'est de montrer cette diversité. Encore une fois, c'est un homme multiple, à la fois de la plus grande rigueur, mais également en fait d'une réelle fantaisie, d'un regard porté sur les autres, également assez fort. Il croque par exemple ses contemporains pendant les commissions.
Oui, parce que c'est très un caricaturiste,
tout à fait.
Dire.
Il caricature exactement pendant les commissions, par exemple se rapportant à la restauration des édifices religieux, mais il croque également en fait sa propre épouse, donc il appelle encore une fois la bouche, ou son frère Adolphe, par exemple.
Il va aussi tenir son rang de personnalité de pouvoir, je dirais.
Certes, et il va le tenir pendant tout le siècle. Et Dieu sait si le 19e siècle est un siècle de grands bouleversements politiques. Il va conserver en fait une importance égale, une proximité avec le pouvoir, aussi bien pendant la monarchie de Juillet, finalement, que pendant surtout également le Second Empire avec Napoléon III et l'impératrice Eugénie, et même, encore une fois, sous la Troisième République, puisque c'est lui notamment qui va présider à Paris la 5e commission chargée donc de l'octroi des crédits pour les Beaux-Arts.
Alors on voit également qu'il a décidé des travaux pour Lausanne.
Oui, tout à fait. En fait, au soir de son existence, il va être missionné pour précisément évoquer, en tous les cas, avoir un diagnostic sur l'état, la situation de la cathédrale réformée, la cathédrale Notre-Dame de Lausanne. Et il va entreprendre, en fait, d'importants travaux. Et c'est à Lausanne, d'ailleurs, qu'il décède, comment dire, en 1879.
D'ailleurs, quelque chose d'important aussi, il va léguer son corps à la science.
C'est un homme de science. C'est un homme qui s'intéresse à toutes les sciences et, bien évidemment, à l'anthropologie physique. Il se nourrit bien évidemment des travaux de Broca, par exemple, oui. Et il va de soi qu'il ne peut que léguer son corps à la science. Il importe pour lui, par exemple, de bien vérifier que son corps ne possède pas de vices cachés qui éventuellement pourraient, par exemple, nuire à sa descendance. Ah, donc il a en fait une notion de sa postérité et de son esprit et de son corps.
Alors, disons que c'est un visionnaire. Et alors, j'ai bien aimé dans cette exposition les trois grandes visions qu'il va avoir. Si vous le voulez bien, première vision.
La première vision, c'est celle de Notre-Dame. C'est un homme, effectivement, qui va ressentir en fait des événements dans sa vie d'enfant, par exemple, oui. Comme à Notre-Dame. Il doit être âgé, je pense, de 6 ans, dans les années, donc vers les années 1820. Et il est dans les bras de son précepteur, décrit en fait que la cathédrale est tendue de noir, et soudainement, un éclat de lumière traverse les verrières, il se retrouve empli dans un univers de lumière et simultanément les grandes orgues se mettent à jouer. Et il est pris d'une véritable frayeur. Finalement, c'est son premier contact avec Notre-Dame de Paris, ouais. Et qu'il ne quittera pas.
Et je dois dire que dans l'exposition, nous avons également ce choc parce que vous avez réalisé cette verrière et on a aussi, et c'est dans un endroit sombre, donc, celui qui vit cette exposition, je peux dire qu'il vit, parce qu'on a aussi la même, peut-être, vision qu'on voudrait, du moins. Et on se met presque à la place de Viollet-le-Duc et on comprend qu'il ait eu aussi cet émoi, si je puis dire.
Tout à fait. Surtout qu'il faut, encore une fois, imaginer l'émoi qu'il pourra avoir aussi à la lecture, par exemple, de Notre-Dame de Paris, le roman publié en 1831, Ensuite, en tant qu'architecte de la cathédrale, c'est le grand restaurateur de Notre-Dame de Paris.
D'ailleurs, vous citez 1831, c'est aussi le voyage avec son nom.
Tout à fait. En fait, c'est un homme qui échappe à l'académisme. C'est quelqu'un qui est passionné par l'architecture, qui veut être architecte, mais qui, en revanche, ne va pas suivre les canons en fait, habituels d'un enseignement à l'école des beaux-arts, un enseignement traditionnel. Il va se nourrir, il appartient encore une fois à la sphère supérieure en fait, de la société, aux castes importantes, en tous les cas, de cette société de l'époque. Et il va donc voyager, donc, par exemple, entre 1831 et 1835, avec son oncle de l'Écluse, donc à travers la France, réaliser plusieurs centaines de dessins. À partir de ces dessins, il va pouvoir ensuite intégrer à la demande, par exemple, du baron Taylor, la fameuse aventure éditoriale qu'a constituée la fameuse édition des voyages pittoresques dans l'ancienne France. Et il va réaliser notamment pour le baron Taylor près de 249 dessins en l'espace de 7 ans. Donc il se nourrit finalement en fait d'une initiation finalement à la diversité de son propre paysage, d'un paysage français, mais également ensuite italien lorsqu'il voyage à partir des années 1836-1837.
C'est un homme très perméable. Je pense aussi à Victor Hugo, les épreuves annotées d'ailleurs.
Tout
c'est
à
ça
fait.
Qui est...
Nous avons eu la chance d'obtenir de la part de la Bibliothèque nationale de France des épreuves en fait annotées de la main même donc de l'écrivain de Victor Hugo et qui évoque aussi la situation de la cathédrale au lendemain de la Révolution française.
Et on comprend aussi mieux pourquoi il va avoir très envie de restaurer.
Ah,
Notre-Dame.
C'est une véritable demande. Ça a aussi une implication en fait qui est profondément politique. La restauration de Notre-Dame, en fait, vu les crédits qui lui sont consacrés, notamment, devient un enjeu politique de premier ordre.
Disons que on arrive à voir aussi toute la peinture troubadour, je dirais.
Tout à fait. En fait, ce que nous voulions évoquer, notamment au travers de cette présentation de l'œuvre de Fleury Richard, La mort du prince Talmont, c'est de montrer en fait que nous sommes profondément à un moment du siècle où on redécouvre en fait couleur locale. Donc en fait une archéologie, une esthétique en fait médiévale. Également c'est les grandes évocations en fait de la constitution d'identité française. Donc au travers des publications de Michelet. D'ailleurs Viollet-le-Duc, certains dessins vont servir à l'illustration d'une édition du Vivant de Michelet. Voilà et donc on dépeint les grandes scènes historiques également donc par la peinture et la peinture troubadour.
Oui, je dois dire que pour nos jeunes auditeurs qui sont au lycée, c'est une exposition exposition vraiment très intéressante qui permet de comprendre beaucoup de choses finalement.
Tout à fait. Je pense que ça répond totalement en tous les cas. Elle répond en tous les cas au, à un certain programme, je pense, de l'enseignement, à la fois en matière littéraire, mais également purement esthétique et surtout de découverte.
Oui, c'est ça.
Voilà, on retrouve en fait la curiosité de l'enseignement se retrouve à travers une curiosité d'un homme qui est avide de toutes les sciences et qui se nourrit de cette soif d'apprendre.
Et j'ajouterais que ce musée correspond bien aussi aux vœux des jeunes, parce qu'il y a de nombreux ordinateurs qui permettent de retrouver ce qu'il y a dans l'exposition, de travailler, même on peut travailler ici.
Tout à fait. C'est un musée qui, justement, sur l'utilisation du multimédia, l'emploi du multimédia, en tous les cas, de ce qu'on peut mettre à disposition, est assez novateur.
Deuxième vision, 1836, en plein hiver.
Tout à fait, en plein hiver. Il est à Robes. Il a pu financer en partie son voyage grâce, en fait, à certains de ses dessins. Il va découvrir, en fait, le Colisée, qui est à ce moment-là totalement vide. Et il est pris d'une vision où il l'imagine, il le restitue totalement empli, finalement, de spectacles et recouvert en fait de son vélum. Il a donc quitté la réalité et il a retrouvé la réalité passée, qui n'existe plus. Et c'est ce qu'il va également s'affiner, en fait, chercher à retranscrire au travers de certaines de ses compositions graphiques, comme le théâtre de Kaltaormin, par exemple.
Voilà, alors j'ai beaucoup aimé parce que c'est un dessinateur hors pair.
Hors pair. C'est un homme qui manie la technique, qui se forge par l'exercice, je pense, qui va à la fois avoir une précision du trait, une précision du dessin, qu'il s'agisse de relevés purement archéologiques, puisqu'il fait du relevé aussi, mais en même temps dans sa capacité visionnaire.
Donc j'en étais à la troisième vision, à Noël 1836.
Oui, effectivement, il est invité par le directeur de la Villa Médicis, qui est Ingres, qui assistait donc à la messe de Noël, ça de la chapelle Sixtine. Et il va être pris d'une vision, il va voir en fait finalement les voûtes s'animer, les fameuses voûtes en fait dessinées par Michel-Ange, prendre corps. Donc il est saisi en fait à nouveau d'une réalité qui se modifie.
Ah oui, ça c'est quand même impressionnant de voir que c'est un homme de vision, mais aussi qui sait faire les choses au jour le jour.
Oui, tout à fait. Il a, c'est un homme en fait qui soit dessine, soit écrit. C'est à peu près les deux grandes parties de son quotidien, en tous les cas, ce qui compose son existence.
J'en arrive maintenant à ce chantier de la Sainte-Chapelle.
Oui.
Alors, qui est vraiment très important dans votre musée, dans votre propre vision aussi de l'artiste.
Oui, bien sûr. En fait, le premier chantier qui lui est confié est celui en fait de Vézelay. C'est Prosper Mérimée qui lui confie donc ce chantier de restauration. Nous sommes en 1840. Mais c'est aussi en 1840 que Viollet-le-Duc en fait va intégrer le grand chantier de la Sainte-Chapelle, qui est alors dirigé par Duban et Lassus. Duban qui est un homme en fait qui appartient déjà au passé, mais Lassus, quant à lui, est le fameux architecte avec lequel il procédera à la restauration en fait de Notre-Dame de Paris. Et c'est un chantier école. C'est là où on va avoir finalement la mise en œuvre en fait des premières doctrines en matière de restauration des monuments historiques.
D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a l'évocation des entrepreneurs.
Exactement. Nous avons souhaité évoquer Viollet-le-Duc, mais également en fait son environnement immédiat, à la fois les personnes avec lesquelles il a pu collaborer, comme Lassus, mais également, cette fois-ci, des hommes de chantier, des entrepreneurs. C'est le cas, par exemple, des frères Durand. C'est le cas, par exemple, de l'entrepreneur en charpente, Bellu. Oui. Bellu, à qui l'on doit, donc, effectivement, la restauration de la flèche de la Sainte-Chapelle, mais également Notre-Dame de Paris.
Oui. Et puis, il parcourt les Alpes. C'est un voyageur. Il n'arrête
tout
pas.
Tout à fait, tout à fait. Il a une véritable passion, un véritable intérêt, comment dire, pour la marche, pour la promenade. Il est souvent représenté avec Madame Sureda, qui fut en fait une personne très proche au soir de son existence, en fait à partir des années 1850, et il parcourt donc précisément le Mont Blanc, les Alpes. Lorsqu'il est en Italie, il va bien évidemment gravir le sommet de l'Etna, et puis c'est aussi pour lui toujours une source d'études. C'est-à-dire que par exemple, il va chercher à restaurer, comme il restaure un monument, mais à restaurer le Mont Blanc.
C'est ça. Vraiment, je dois dire que le Mont Blanc, ça nous laisse pantois.
Tout à fait, mais son idée, c'est toujours d'imaginer encore une fois, mais avec une grande rigueur scientifique, il applique en fait les principes en fait de la cristallographie, en fait de la cristallisation, si vous voulez, en fait, le principe des cristaux de roche cette fois-ci, mais appliqué encore une fois pour restituer le Mont Blanc, l'imaginer dans toute sa grandeur avant finalement les grands phénomènes géologiques de l'érosion. Donc il pense constamment.
Nous en étions à ce voyage et nous parlions du Mont Blanc. Alors j'aimerais bien peut-être pour nos auditeurs que vous nous expliquiez un peu ce qu'était cette vision de Viollet-le-Duc, cette vision du Mont Blanc par Viollet-le-Duc.
En fait, il parcourt déjà le Mont Blanc. Il le sillonne, il en emprunte les différents chemins. C'est un homme, par exemple, aussi qui fait partie du comité en fait d'organisation du Club Alpin français. Donc il est profondément investi dans cette mission, encore une fois. Et c'est lui qui va également réaliser l'une des premières cartes du Mont Blanc
qui existe toujours,
en utilisant les procédés dernier cri de l'époque, en l'occurrence ce qu'on appelait le téléiconographe, qui était inventé par un de ses collègues architectes, qui était Henri Révoil, et dont on présente un très joli dessin de cet instrument, qui est une pièce vraiment unique conservée donc à l'INPI. On a vraiment eu recours comme ça à différentes sources. Il restitue le Mont Blanc parce qu'il applique en fait, la connaissance des procédés de cristallographie, mais cette fois-ci donc à la montagne. Comme il restitue un monument, il va chercher à restituer en fait phénomène géologique majeur
il est toujours dans une recherche permanente, puisque même quand il est bloqué pendant 4 heures, eh bien, il travaille.
Tout à fait. En fait, il fait une chute dans un glacier suisse. Il fait une chute de près de, je crois, 12 mètres. Mm-hmm. Et il reste en fragile équilibre dans la crevasse, sur un petit bloc de glace. Et plutôt que de paniquer, en fait, il va étudier le principe, en fait, de la régélation de l'eau.
Alors ça, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et alors, on parlait de science, mais alors si je pense à la zoologie, c'est aussi quelqu'un qui est un peu étonnant parce qu'il a une vision la nuit.
Tout à fait. En fait, il joue sur, bien évidemment, son patronyme. Viollet-le-Duc, c'est le grand-duc, bien évidemment, donc a d'intérêt majeur pour les animaux nyctalopes, ceux qui voient en fait la nuit, tout comme lui en tant que génial architecte, voit des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Voilà, donc il décide énormément de chouettes, mais également de chauves-souris, de serpents, de chats. Quelque part, une acquaintance évidente avec ces animaux.
De là va naître une faune fantastique.
Oui, bien sûr. En fait, il étudie vraiment dans le détail, encore une fois, la zoologie, l'anatomie. Il va en retirer certains principes qu'il va ensuite pouvoir utiliser dans des modèles en fait d'architecture, mais également pour les décors, les fameuses gargouilles. Il se nourrit bien évidemment en fait d'une faune fantastique basée parfois sur le réel, s'appliquant aussi à utiliser par exemple des procédés bien connus sur l'évolution par exemple de la face humaine par rapport en fait à celle animale.
Oui.
Voilà ce qu'on appelle la physiognomonie en fait.
Oui.
Et voilà, il va l'appliquer en fait dans ses créations. Toutes les sources d'inspiration.
Et alors on en arrive dans cette exposition au grand chantier. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que on voit Notre-Dame de Paris. Comment ça s'est déroulé, si je puis dire?
Bien sûr, en fait, c'est un chantier qui est très bien documenté grâce notamment au fonds de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui possède un fonds de plusieurs milliers de dessins de Jeanne Viollet-le-Duc. Et ce chantier est documenté depuis les premiers projets d'urbanisme en fait, d'Eugène Viollet-le-Duc. Il ne pense pas seulement le monument, il pense en fait également son environnement, environnement urbain. Donc il réfléchit en fait à large échelle, mais à large échelle et jusqu'au plus petit détail ensuite. Et l'exposition, elle montre à la fois donc ses projets d'urbanisme, mais également la restauration de l'édifice proprement dit. Il faut imaginer un Notre-Dame de Paris qui est à ce moment-là, à cette époque, est dans un état de dégradation qui est très avancé. Tout ce qui est partie saillante, notamment les fameuses gargouilles, ont été arasées. L'édifice menace ruine, il n'y a plus de flèche. La flèche a été jetée bas en fait en 1793. Il n'y a plus de sculpture, la sculpture est totalement absente, elle a été démolie et ravagée par le vandalisme révolutionnaire. Et Gelée-le-Duc va concevoir un projet avec Jean-Baptiste Lassus, un projet global, globalisant, intégrant l'environnement de l'édifice, l'édifice, son décor extérieur et son décor intérieur, jusqu'au mobilier liturgique.
Et puis j'en arrive à l'apothéose. Apothéose parce que là, eh bien, on voit ce chandelier pascal. Et ça, vraiment, je dois dire que j'en suis restée sans voix.
Après que nous avons eu en fait des prêts vraiment exceptionnels, oui. Notamment de la part de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous présentons donc les pièces majeures, notamment du fameux trésor de Notre-Dame de Paris, donc le chandelier pascal. On retrouve en fait des motifs qu'affectionnent particulièrement Gelée-le-Duc, comme la palmée de pieuvre par exemple. Donc ce sont des œuvres qui sont conçues sur des dessins de Jeanne Gelée-le-Duc et qui sont exécutées à ce moment-là, à cette époque, par les plus grands orfèvres, comme par exemple Placide Poussielgue-Ruzan.
Ça, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de serrurerie parce qu'il n'y a pas de rivets.
Exactement. L'assemblage, en fait, est totalement dissimulé. Donc oui. Les pièces, en fait, s'associent les unes aux autres de manière totalement invisible. L'autre pièce majeure, c'est bien évidemment le grand lutrin.
Ah oui, voilà, qui est splendide. Alors, décrivez pour nos auditeurs ce lutrin.
C'est une pièce qui dépasse les 2 mètres, qui représente une iconographie chrétienne traditionnelle, totalement adaptée bien évidemment à la liturgie. On retrouve le visage des apôtres, mais également les grands vivants de l'Apocalypse, en fait, représentés donc sous leur symbole.
Voilà. Le portail.
Le portail également, qui est une pièce qui n'a jamais été exposée, que nous avons fait descendre depuis les tribunes jusqu'à l'exposition. Donc c'est une pièce absolument remarquable. On retrouve en fait une simplicité d'assemblage et un décor absolument raffiné, totalement approprié à la grande cathédrale.
Maintenant, on va brosser peut-être tous ces trésors pour que nos auditeurs se rendent compte du travail qui a pu être fait d'après les dessins. Il faut bien dire que les dessins sont de Gelée-le-Duc.
Tout à fait.
Avec une précision que je n'imaginais pas.
Tout à fait. En fait, nous avons la chance de présenter par exemple certains reliquaires. Il y a du bois de la croix par exemple, le grand ostensoir, des pièces d'orfèvrerie ornées de pierreries des plus raffinées.
Oui, oui.
Et qui sont conçues d'après des dessins de Gelée-le-Duc. C'est exceptionnel. Le rassemblement de ces pièces hors cathédrale est absolument remarquable.
Et alors là, vous avez pu avoir facilement ces pièces parce que j'imagine que ça doit être compliqué.
Oui, mais en même temps, ça a été une véritable collaboration. Nous avons vraiment travaillé tous dans une collaboration aussi bien en interne, Cité de l'architecture et du patrimoine, mais également avec Jean-Michel Legnou, puis la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, mais également toutes les autres institutions prêteuses qui ont consenti en fait vraiment à des prêts exceptionnels, des œuvres que l'on ne verra pas, je pense, pendant quelques années.
Donc vraiment, chers auditeurs, venez. C'est facile de venir chez vous.
C'est extrêmement simple, extrêmement simple. Vous découvrirez non seulement le palais de Chaillot, avec une vue sur la tour Eiffel majeure, mais également ses intérieurs, cette cité de l'architecture et du patrimoine, qui est le lieu rêvé pour, je pense, découvrir l'architecture dans toute sa diversité.
Et puis, je ne résiste pas au chantier de Pierrefonds, parce que là, c'est un autre exemple, mais ô combien intéressant.
Certes, ça fait partie également des grands chantiers que nous avons souhaité en fait développer. Avec Pierrefonds, nous avons voulu évoquer justement toujours cette idée de chantier total, d'un édifice qui est extrêmement ruiné, que Napoléon III donc va demander d'être dans un premier temps simplement restauré, Gelée-le-Duc va s'acquitter de sa charge, et puis finalement l'empereur revient en fait sur sa demande et va demander la création d'une véritable résidence impériale. Et Gelée-le-Duc va le restaurer, va le reconstituer.
Oui, parce qu'il y a vraiment un très beau tableau.
Tout à fait.
Magnifique, et qui montre que le château, il n'y avait plus rien.
Ah, il ne restait plus rien. L'édifice avait été ravagé par les troupes de Richelieu, donc il a été vraiment ruiné. L'idée était de laisser un édifice qui ne pouvait pas être réhabilité. Oui. Et finalement, il le sera, mais bien plus tard, au XIXe siècle, grâce Avery-le-Duc qui va en concevoir non seulement en restituer les maçonneries, les différents niveaux, mais le décor, la faune, tout comme il l'a appliqué en fait finalement à Notre-Dame de Paris. Il va appliquer en fait cette même méthode d'un projet global, cette fois-ci pour un château.
Ça, c'est un chantier qui a dû être très très important.
Tout à fait, c'est un chantier majeur et sans doute l'un des plus connus également peut-être avec Carcassonne ou Toulouse.
Oui, là on ne parle pas de Carcassonne dans l'exposition.
Non, en fait, déjà le parti qui a été choisi était vraiment d'avoir des exemples qui permettent d'avoir une vision globale des édifices. Et il est vrai qu'en cette année de commémoration, il a également eu des... il y a eu d'autres expositions, réquisitionnées, bien sûr, demandées également dans des salles de l'art. Donc le choix était vraiment porté, vraiment, sur ces grands chantiers de Notre-Dame et de Pierrefonds, mais également, on évoque Lausanne, bien évidemment, les grandes cérémonies ayant trait, par exemple, à Amiens, aux reliques de Sainte-Eudoxie.
Alors peut-être ça, ce serait bien d'en parler un peu, oui.
Oui, parce qu'effectivement, on a du mal à imaginer, mais effectivement, Napoléon III fait revenir à Amiens les reliques d'une sainte dite agnémoise, qui est donc sainte Eudoxie, et Viollet-le-Duc va s'occuper en fait de l'aménagement complet en fait de la chapelle. Ça passe donc à la fois par le décor, mais également la serrurerie, toutes les parties en fait relatives à l'aménagement d'une chapelle de l'époque. On peut évoquer bien évidemment Amiens, mais on peut évoquer aussi des aspects peut-être moins connus, comme par exemple le wagon du train impérial.
Ah, il réalise
également en fait le décor. On lui confie le décor en fait du wagon du train impérial. Voilà, donc il va à la fois penser non seulement le décor des peintures, mais également les huisseries, réfléchir au mobilier, aux boiseries. Il pense une fois de plus de manière globale, mais cette fois-ci dans un but qui est loin d'être odieux, mais au contraire plus.
En fait, il savait aborder tous les problèmes, toutes
exactement,
les questions.
Exactement, il a une vision qui est celle d'un génie. Voilà, et dans toute cette diversité.
Oui, et ça, je trouve que vraiment, on a découvert ce génie grâce à cette exposition, parce que on avait une idée, mais complètement fausse.
Je pense que ça renouvelle considérablement la perception en fait de ce personnage, qui était davantage en fait connu peut-être pour une certaine approche de la restauration, et moins pour ce qu'il est profondément, un homme curieux. Et un homme en fait qui s'est forgé, nourri de science, et qui par son apprentissage en fait a su nourrir en fait son art.
Eh bien, Jean-Marc Hoffmann, un grand merci parce que vous nous avez fait vivre cette exposition Viollet-le-Duc. J'incite tous nos auditeurs à venir voir cette exposition au musée qui se trouve au Trocadéro.
Oui, c'était de l'architecture et du patrimoine.
Au Trocadéro. Oui. Et je voudrais signaler que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.